Chapitre 12. L'ordre de Tintaglia. Et quand le berger devenu guerrier se fut lassé d'émousser son épée sur le cuir invulnérable du dragon, il s'écarta, en nage et haletant. Toutefois, dès qu'il eut repris son souffle, il se remit à maudire son adversaire et assura qu'il se vengerait au triple de la créature qui avait dévoré tout son troupeau. À ces mots, le monstre parut émerger de son sommeil rassasié. Sans plus de hâte que le soleil ne pointe à l'aube, il leva la tête et ouvrit les paupières. De son haut, il regarda l'homme avec son arme et un tourbillon naquit dans ses grands yeux verts. D'aucuns disent qu'il ressemblait à des maelstroms au fond d'un abîme, qu'ils aspirèrent l'âme de Fidgard dans leur profondeur et l'assujettirent au dragon. D'autres prétendent que le berger résista à leur fascination et que c'est seulement quand il respira l'haleine de la créature qu'il tomba en sa servitude. Mais comment distinguer l'erreur de la réalité? Les témoins venus voir Fidgard tenter de tuer le dragon avaient prudemment fait halte à la limite de sa pâture. Que ce fût par son regard ou son souffle, il s'empara du cœur de l'homme qui jeta soudain son arme et son bouclier et s'écria « Pardonne-moi, ô créature d'émeraude, de diamant, de flamme et de vérité. Je n'avais pas perçu ta splendeur et ta puissance en t'approchant. Pardonne-moi et permets-moi pour le restant de mes jours de te servir et de chanter tes louanges. » Légende de l'esclave du dragon. Le froid et une blancheur éclatante régnaient dans le monde. Je trouvais la perception de mes pieds, pris appui sur eux pour me redresser et chercher à me rappeler comment m'en servir. Burik apparut soudain, empoigna mon bras libre, puis Devoir, lui et moi descendîmes avec force faux pas et glissades dans la lumière du petit jour vers les tentes frileusement serrées, les unes contre les autres. Je vis Imbre qui montait presque en courant à notre rencontre. Loin derrière lui, Lourd le suivait, Pato dans la neige, puis Longue Mèche et les gardes survivants. Les membres du clan de Vif étaient sortis pêle-mêle de leur tente, à demi vêtus, et tout en enfilant leurs bottes et leurs manteaux, pointaient le doigt vers nous en s'exclamant. Les guerriers du Hedgurt se tenaient à l'écart et nous observaient fixement en échangeant des hochements de tête, comme s'ils n'avaient pas espéré d'autre issue que catastrophique à l'expédition. La première tentative de glace-feu pour se libérer avait eu l'effet d'un petit séisme, et il poursuivait ses efforts tandis que nous nous éloignions en hâte de l'excavation. Nous entendions autant que nous sentions sous nos pas le dragon s'agiter pour s'extraire de sa prison, et la glace en se rompant crissait, claquait et gémissait. Pourtant, chaque ébranlement me paraissait moins violent que le précédent. Et quand nous parvînmes à mi-pente, les craquements cessèrent tout à fait. Je percevais Glacefeu toujours aussi clairement par le vif, mais je sentais une créature qui avait dépensé une quantité d'énergie prodigieuse et vacillait désormais au bord de l'effondrement. « Quelle ironie !» dis-je, le souffle court à mes deux compagnons. « Si, après tant d'années à désirer la mort, il mourrait finalement en s'efforçant de survivre. » Burik eut un grognement dédaigneux. « Nous mourrons tous en nous efforçant de survivre une dernière fois. »
« Que s'est-il passé ?» demanda Devoir d'un ton pressant. « Pourquoi l'avoir réveillé au lieu de le tuer? La poudre n'a-t-elle pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?»
Avant que j'eusse le temps de répondre, Imbre fut sur nous. Mon vieux mentor s'avança vers moi à grandes enjambées, frémissant d'indignation.
« Comment as-tu osé ? »
fit-il d'une voix âpre que la fureur faisait trembler.
« Comment as-tu pu trahir ainsi ton propre sang ? Tu devais tuer le dragon. De quel droit t'y opposes-tu ? Comment peux-tu te dresser contre ta famille ? » ?»«
Je ne me dresse pas contre ma famille. J'ai laissé le fou se faire forgiser pour les loin voyants, »
répondis-je. L'atroce vérité, ainsi exprimée tout haut, dans le vif éclat du matin prit soudain corps et devint réalité. Je dus reprendre mon souffle, puis je poursuivis d'une voix plus basse.
Nous regardions les marionnettes, Imbre, en oubliant que c'était la femme pâle qui tirait les ficelles. Elle souhaite la mort du dragon, certes, et peut-être si nous lui avions obéi, nous aurait elle-même rendu le fou, mais seulement pour lui permettre d'assister à l'anéantissement de tous ses espoirs, seulement pour lui permettre d'assister à la fin de la lignée des loin-voyants. Sans prêter attention à ceux qui nous écoutaient, je lui exposais, ainsi qu'à devoir, mon raisonnement. Dans le silence qui s'ensuivit, il me sembla les entendre l'éprouver, l'examiner sous toutes les coutures, sans parvenir à y trouver de faille. Je m'adressai au prince. « J'ai rompu votre promesse et vous ai fait perdre votre future épouse, mais je ne puis pas dire que je regrette ma décision. Votre mariage aurait été fondé sur la mort et il n'aurait engendré que la mort. Pour le moment, du moins, nous avons choisi la vie, celle du dragon, et peut-être une paix plus grande entre les six duchés et les îles d'outre-mer que celle que nous aurions pu bâtir sur la disparition de Glacefeu.
« Joli discours !» s'exclama Imbre excédé. « Mais, malgré tes beaux propos, tu n'as aucune idée de l'avenir que tu nous imposes, et moi non plus. Si cette créature parvient à se libérer et que la faim la tenaille, choisira-t-elle de nous laisser la vie sauve ou de faire un copieux repas ? J'ai manqué de clairvoyance, je le reconnais, et peut-être as-tu eu raison de ne pas tuer Glacefeu, mais cela ne t'absout pas de l'avoir réveillé. « Qui t'en remerciera, Fitz-Chevalerie, quand cette longue journée s'achèvera ?»«
Fitz-Chevalerie ?» répéta Civil en s'approchant du vieil assassin. « Fitz-Chevalerie ? Ai-je bien entendu, Tom Blaireau serait Fitz-Chevalerie, le bâtard au vif ?»
Abasourdi, il agrippa le bras de Tram, exigeant une réponse, les yeux écarquillés, le souffle coupé par la surprise. L'ami de devoir me dévisageait comme s'il me voyait pour la première fois. Mais nulle admiration ne brillait dans ses yeux d'adolescent. On avait jeté son héros à bas de son piédestal. On lui montrait un tas de terre, là où il attendait l'éclat de l'or.
Chut !
Tram rabattit sur le secret une chape désormais trop petite. Pas maintenant, je vous expliquerai plus tard. Le temps nous presse. Il a réveillé le dragon. À nous de le délivrer. Il me jaugea du regard et parut satisfait de ce qu'il voyait. Il m'adressa un hochement de tête où perçait le respect, puis, à grands pas, il se mit à gravir la pente en direction de l'excavation. Je remarquai alors que les membres du clan de Vif s'étaient munis d'outils, pelles et barres à mine, et qu'une volonté nouvelle les animait. Lest et Niel amenaient le traîneau pour évacuer les déblais de glace. L'enfant passa devant Burik et moi sans lever les yeux. Toutefois, son père perçut sa présence et ne se laissait pas démonter par son silence glacé.
« Fais attention, mon fils, » lança-t-il. « Nul ne sait quelle créature Fitz a tiré de son sommeil, ni quel sentiment elle nourrit à notre égard. »
Il se tourna vers moi. J'ignorais que des pupilles aussi laiteuses pouvaient ainsi transpercer celui sur qui elle se posait.
« Qu'as-tu donc fait là-haut ? Mais pourquoi ? »
Peut-être. Le temps était-il venu de révéler cette vérité là aussi? Je n'ai rien fait. Du moins, pas seul. Je savais le dragon vivant, mais je n'arrivais qu'à le toucher avec mon vif, non, avec mon art trop faible. Alors Orti m'a trouvé.
Et Orti l'a réveillé,
clama gaiement Lourd en nous rejoignant enfin.
Et je l'ai sauvée, et je l'ai mise à l'abri, elle-même.
Quoi?
Explosa Burik d'un ton empreint d'outrage et de douleur.
« Orti, mon Orti, le vif ! Non, c'est impossible, ça ne se peut pas !»«
Non, pas le vif, l'art !» intervint Imbre avec impatience. « Elle n'a jamais appris à le maîtriser, et cela la met en danger. Autre résultat dont il faut remercier Fitz et ses caprices. Nous avons failli la perdre dans le fleuve d'art, mais Lourd la connaissait assez bien pour la repérer et l'en tirer. Elle ne craint plus rien, Burik. » Elle ne doit pas comprendre ce qui lui est arrivé, mais elle ne craint plus rien.
Je suis dépassé. Je ne sais plus comment réagir.
Alors qu'il me tenait par le bras jusque-là, je sentis soudain Burik prendre appui sur moi. Il laissa échapper un soupir tremblant.
Je me doutais qu'elle détenait une parcelle de la magie de chevalerie. Je m'en doutais depuis longtemps. Et quand elle m'a parlé de son rêve avec le loup, j'ai compris que je devais aller voir Kedriken pour en démêler les implications et faire donner à Orti une formation.
Il m'adressa un sourire singulier, où se lisaient la fierté pour la jeune fille et la peur pour son avenir.
Elle a été assez forte pour réveiller un dragon.
À cet instant, une déflagration mentale nous souffla, faisant trébucher Umbre qui tomba à genoux. Je reconnus la façon de communiquer. Tintaglia nous avait trouvés.
Allez l'aider. Exhumez Glacefeu et n'abîmez pas une seule de ses écailles. Je vole comme le feu, car j'ai touché son esprit. Je sais où il se trouve et je n'ai plus besoin d'un oiseau pour me guider. Je vous préviens. Je ne suis pas loin, et à mon arrivée, je veux le voir debout pour m'accueillir. Sinon, malheur à vous tous.
Ce n'était aucune des magies que je connaissais, et pourtant, j'eus l'impression d'un choc semblable à celui d'un contact d'art puissant. Glacefeu m'avait laissé l'esprit à vif, et je vacillais sous l'impact mental de Tintaglia. Ceux d'entre nous qui possédaient une formation à l'art furent sans doute les plus réceptifs à sa proclamation. En tout cas, elle ébranla tout le clan d'art de devoir. Les membres du clan de Vif réagirent de diverses façons. Certains parurent saisir clairement le sens du message, d'autres jetèrent des coups d'œil perplexes autour d'eux, tandis que Niel restait impassible. Civil s'écria
« Vous l'avez tous entendu, Tintaglia nous ordonne de délivrer Glacefeu, allons-y !»
Et il s'élança vers la fosse, comme s'il menait la charge contre des rangs ennemis. Un des Outriliens au moins se prosterna à terre, persuadé qu'un dieu ou un démon lui avait parlé. Deux autres prirent l'air absent de qui dresse l'oreille à l'affût d'un bruit ou d'une parole difficilement perceptible. Les derniers n'eurent aucune réaction. Burik, que mon père avait fermé à l'art depuis longtemps, eut un moment une expression intriguée, comme si un souvenir lui était revenu pour disparaître aussitôt. Son vif avait dû capter vaguement l'émission, mais sans lui permettre de comprendre la pensée qui l'accompagnait. Je n'eus qu'un instant pour effectuer ces observations, car tout à coup, lourd, un sourire ravi sur la figure, se mit à gravir la pente en courant aussi vite que ses courtes jambes pouvaient le porter.
« J'arrive !» cria-t-il. « Je viens te libérer, Glacefeu !»
Je mis son enthousiasme sur le compte de l'influence qu'exerçait encore peu de temps auparavant le dragon sur son esprit simple et de son sauvetage réussi d'Ortie, expérience sûrement enivrante pour le petit homme. Je lui emboîtais le pas à grandes enjambées, de voir à mes côtés, Umbre sur mes talons. J'entendis le prince marmonner.
« L'excavation se trouve à l'aplomb de son échine. C'est certainement là que la glace cédera en premier. Ça réduira le travail à effectuer. »
Et je m'étonnais de sa soudaine exaltation.
Vous ne partagez donc pas l'avis d'Umbre, selon lequel nous devrions laisser Glacefeu là où il est, sans nous occuper de lui?
Si, enfin, avant qu'Orti le réveille. Non, avant ça même. Mais Tintaglia nous l'a ordonné. Tintaglia!
Il ralentit l'allure et me regarda d'un air effaré.
Ça me rappelle l'ordre d'art que vous m'aviez donné, mais pas tout à fait. Celui-ci, je puis le contourner, du moins, je crois.
Il saisit mon bras et m'obligea à m'arrêter, une étrange expression sur les traits.
Elle a commandé, et pendant un moment, je n'ai pu penser à rien d'autre que lui obéir. C'est bizarre. S'agit-il de ce qu'on décrit en parlant du pouvoir de fascination des dragons?
Burik intervint, et je sursautai. Je n'avais pas pris garde à sa présence. Pourtant, il avait réussi, je ne sais comment, à nous suivre.
D'après les vieilles légendes, les dragons imposent leur domination par leur souffle. Un événement m'aurait-il échappé? Une injonction d'art.
Quelque chose comme ça, oui, répondit Devoir songeur. Une espèce d'ordre, je pense, mais je n'en suis pas sûr. Il me semble que je voulais aider Glacefeu, que j'avais cette envie en moi avant qu'elle ne l'exige. Cependant...
À cet instant, Umbre nous dépassa en marmottant.
La poudre fera l'affaire, elle déblaiera la glace. Il suffit de changer d'emplacement ou peut-être de la fractionner en plus petite quantité.
Devoir et moi échangeâmes un regard, puis le rattrapâmes. J'agrippai sa manche, mais il se dégagea brusquement. Je le pris par le bras.
Umbre, il ne faut pas le tuer, il est trop tard. Tintaglia ne tardera pas, et trop d'entre nous souhaitent le délivrer. Ça ne marchera pas.
Le tuer ?
Il parut sidéré.
Mais je ne veux pas le tuer, Nigo. Je veux le libérer à l'aide de ma poudre explosive.
Je lançai un coup d'œil inquiet au prince qui me le rendit.
Pourquoi ?
Demandai-je à Umbre d'un ton circonspect.
Tant de candeur le laissa visiblement pantois. Puis, une nouvelle expression passa sur ses traits, fugitive, mais effrayante. Il ne savait que répondre. Toutefois, si embrumées que fussent ses pensées par l'influence de Tintaglia, il avait toujours eu le talent d'inventer d'excellents motifs pour m'obliger à me plier à ses décisions.
Oublierais-tu qu'un dragon femelle, de fort méchante humeur et mise au courant de notre présence sur l'île par tes bons soins, est en route pour nous rejoindre? Quel choix nous reste-t-il? Si nous tuons Glacefeu, elle nous éliminera tous, si j'interprète bien son avertissement. Hélas, pour éviter cela, nous devons nous porter au secours de son compagnon. Si nous le libérons de sa prison avant qu'elle n'arrive, elle y verra peut-être un signe de bonne volonté de notre part. Tu as affirmé toi-même que nous pourrions nous servir de ses faveurs pour bâtir une alliance avec Terrilleville. Tant que nous ignorons quelle puissance elle est capable de déployer, j'estime préférable de l'apaiser par tous les moyens. Pas toi.
Et vous pensez que votre poudre constitue le meilleur outil pour dégager Glacefeu?
Une seule explosion peut équivaloir au travail de 10 hommes munis de pelles. Fie-toi à moi, Fitz. Je sais ce que je fais.
Il paraissait désormais aussi exalté à l'idée de libérer le dragon grâce à son invention que plutôt à celle de le tuer par le même procédé. Quel impact avait eu sur lui Tintaglia? Celui d'un ordre d'art auquel on ne peut qu'obéir, quel que soit son avis personnel. Le fou était-il déjà forgisé? Mort? Cette question me submergea brusquement comme une vague glacée et chassa toute autre préoccupation de mon esprit. Je vacillais sous le choc. J'avais agi comme l'espérait le fou. J'avais réveillé le dragon qu'à présent nous mettions toutes nos forces à libérer, afin qu'il s'unisse à Tintaglia, et j'avais même eu le sentiment, sur le moment, d'accomplir ce qui était juste. Toutefois, de toute mon âme, j'aurais voulu inverser le cours implacable du temps. Je ne pouvais pas revenir en arrière, changer ma décision, mais ce fardeau me paraissait tout à coup trop lourd, ses arêtes trop aiguës pour le porter jusqu'au bout de mon existence. Je sentis fugitivement la brûlure glacée des empreintes d'argent sur mon poignet. Mes pas m'emmenaient toujours vers la fosse avec mes compagnons. Parvenus à destination, nous constatâmes que les efforts du dragon n'avaient eu guère de résultat. Des fissures étoilées parcouraient la glace qui l'emprisonnait, et il avait éboulé une section du tunnel qui longeait son cou jusqu'à sa tête. Le clan de Vif avait déjà commencé à élargir les fractures avec un enthousiasme vigoureux, mais une main-d'œuvre réduite. Toutefois, les représentants du Hedgurd se joignirent à lui alors que j'arrivais, et pour la première fois, tous les hommes du camp unirent leurs forces pour tirer vivant le dragon de sa prison. Néanmoins, malgré l'ardeur générale, la tâche demeurait ardue. De rechef, Imbre me traita de nigaud quand nous nous aperçûmes que j'avais oublié le pot de poudre en quittant le boyau. Il chargea 2 hommes de rouvrir le passage, puis sema le trouble chez les membres déjà méfiants du clan de Vif, en leur faisant creuser des trous étroits et profonds autour du dragon.
« Nous placerons des charges plus réduites le long de la lézarde centrale. Elles n'auront pas assez de puissance pour le blesser, mais suffisamment pour morceler la glace, afin que nous puissions la déblayer par blocs. Fitz, j'aurai besoin de toi pour m'aider à mesurer la poudre et l'empaqueter de façon hermétique. » De vous aussi de voir, et dites à Longue-Mèche de venir nous prêter main forte. Il nous faudra également d'autres récipients pour y allumer des feux. Il sera délicat de déclencher les explosions de manière simultanée, mais nous y gagnerons en efficacité, j'en ai la conviction.
Il était dans son élément, l'organisation dans l'improvisation. Mettre ses idées en pratique lui procurait une joie intense. Je pris conscience qu'à sa façon, il aurait fait un militaire et un stratège excellent, très proche de vérité. Je ne l'avais jamais vu plus vivant que dans les occasions où il rejetait toute contrainte pour transposer sa pensée dans l'action. Burick nous accompagna quand nous redescendîmes au camp, car il ne pouvait guère contribuer aux travaux de mine, et je m'attristais de l'en savoir conscient. Il m'évoquait un vieux chien qui, incapable de suivre l'allure de la meute sur une sente, reste à l'étrier de son maître avec la certitude confiante qu'il participera à la curée. Je lui jetai un coup d'œil alors qu'il s'asseyait prudemment sur le lit d'Imbre. Le vieil assassin ouvrit un nouveau tonnelet de sa poudre, et je m'agenouillai par terre, une peau propre étendue devant moi, pour
pour répartir la substance en petits tas, à peu près du même volume que celui qu'il avait constitué à titre de modèle. L'examen de la poudre me laissa perplexe. Ses grains de teintes différentes paraissaient inégalement broyés, mais Ambre écarta mes questions d'un haussement d'épaule.
« Je l'améliorerai avec le temps, mais pour le moment, seul compte le fait qu'elle effectuera le travail, mon garçon. Mais où reste donc le prince ? Je l'ai envoyé chercher dans toutes les tentes des récipients qui ferment. Il devrait déjà être revenu, ainsi que Longue Mèche avec les bouilloires. Nous allons devoir adapter les quantités de poudre à la taille des contenants, et plus vite nous commencerons, mieux cela vaudra. »
Il ne tardera sûrement plus. Je me tournai vers Burick. Tu ne dis rien. Est-ce parce que tu venais tuer le dragon et que nous essayons à présent de le sauver ? Ses sourcils noirs se froncèrent.
Tu me crois venu tuer le dragon ?
Il secoua la tête avec incrédulité.
Je ne pensais même pas qu'il existait. Je n'y voyais que le mauvais rêve d'une gamine. Je n'ai donc eu aucun mal à garantir à Orti que je l'en protégerais. Je l'ai emmené à Castelserre, et là, j'ai appris qu'il se trouvait peut-être bel et bien la dépouille d'une de ces créatures sur Aslevial. Mais en m'y rendant, je n'avais l'intention que de vous ramener à la maison, Leste et toi, parce que, quoi qu'il puisse t'en coûter, c'est là ta place. »
Il soupira brusquement.
« J'ai toujours été un homme simple, Fitz, et je cherche des solutions simples à mes problèmes. » Mais voici que je dois essayer de démêler l'embrouillamini que nous avons créé, toi et moi, tout en défendant Orti d'un dragon qui connaît son nom et en tâchant de faire entendre raison à l'Est sur la magie des bêtes. J'étais certain que tu avais fini par mourir du vif, tu sais. La reine m'a raconté en gros ton histoire. Le forgisé qui s'était approprié la chemise que je t'avais taillée, avec l'épingle du roi subtil plantée dans le col. Quand je pense à ma peine, quand j'ai enterré ce malheureux. »
Devoir entra en coup de vent et interrompit ses réminiscences.
Ils ont disparu. Je ne les trouve nulle part.
Quoi, les récipients pour la poudre ?
S'exclama Imbre, tout à ses préparatifs.
Il n'en reste pas un seul.
Non, la Narcheska et Péotre, ils sont partis. Leurs lits sont vides. Au lieu de se coucher après notre discussion d'hier soir, ils ont dû quitter le camp et dans ce cas,
il ne pouvait avoir qu'une seule destination. »
Imbre affirmait plutôt que cela n'avait aucune importance, mais il avait à présent le front plissé et tapotait du doigt les tas de poudre au grain le plus fin.
« Ils sont allés rejoindre la femme pâle pour lui apprendre que Fitz est revenu parmi nous et que nous savons désormais les véritables enjeux de la partie. »
Il s'assombrit encore.
Nous avons parlé devant eux de la mouette de Tram et de l'arrivée prochaine de Tintaglia. Ils le lui ont sûrement rapporté aussi. Elle connaît donc notre position vis-à-vis d'elle et nos points faibles. Elle comprendra que si elle souhaite nous attaquer, elle doit agir promptement. Nous devons la prendre de vitesse. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut dégager le dragon.
Mais pourquoi Eliania et Péotre nous trahiraient-ils ainsi, alors qu'ils me savaient disposés à tuer Glacefeu ?
Fit le prince au supplice.
« Je l'ignore, »
répondit Imbre, sans manifester de compassion.
« Mais, par sécurité, mieux vaut supposer une trahison, partir de l'hypothèse que la femme pâle est au courant de nos propos d'hier soir et déterminer quel danger il en ressort. »
« Mais la situation a complètement changé depuis hier. Fitz et moi projetions alors d'obéir à sa volonté. » À quoi bon prendre la peine de le lui apprendre ? Pourquoi ne pas avoir attendu que nous ayons exécuté ses ordres ?
Devoir fronça les sourcils.
Quand ils ont pris congé de nous, Péotre ne m'a pas donné l'impression d'un homme prêt à se jeter aux pieds de l'adversaire.
Je ne sais pas.
Imbre n'oubliait pas les préparatifs en cours.
Pas plus gros que ça l'état quand la poudre est aussi fine, Fitz.
Il revint au prince.
« Je ne sais pas, Devoir, mais mon rôle m'oblige à partir du principe qu'ils veulent vous nuire et à tâcher d'imaginer un moyen de les en empêcher. »
À l'aide d'une raclette, il réduisit un de mes amas de poudre.
« Nous verrons cela une fois le dragon dégagé, »
reprit-il comme en aparté. Il leva les yeux vers l'adolescent.
« Il nous faut des récipients !»«
J'y vais, »
répondit Devoir d'une voix défaillante.
« Très bien !»
Chassez de vos préoccupations Piotr et sa nièce pour le moment. S'ils nous ont faussé compagnie la nuit dernière, ils sont trop loin pour y changer quoi que ce soit. Intéressons-nous au problème qui se pose à nous dans l'immédiat, puis nous passerons au suivant. »
Le jeune prince acquiesça de la tête d'un air absent et sortit. Je le plaignais de tout mon cœur. Croyez-vous vraiment qu'ils sont allés tout rapporter à la femme pâle ?
C'est possible, mais je ne le pense pas. Comme je l'ai dit à devoir, il faut supposer le pire, et de là, établir notre défense. Et la meilleure consiste peut-être à délivrer le dragon que tu as réveillé. »
Le front barré d'un pli, il réfléchit, puis parut soudain se reprendre d'intérêt pour ses tas de poudre.
« Nous examinerons la question de plus près une fois Glacefeu libéré. »
Restait-il sous l'influence de l'ordre de Tintaglia ? Je le craignais. J'aurais voulu le croire capable de raisonner clairement, mais j'en doutais. Longuemèche revint le premier avec les bouilloires, puis Devoir avec des récipients de tailles diverses. Dès qu'ils les lui eurent remis, Imbre les renvoya sur le site de l'excavation avec instruction de s'assurer qu'on creusait bien les six trous qu'il avait demandés autour du dragon. Cherchait-il seulement à occuper le prince ? Avec un soin qui me parut presque excessif, il fit le tri parmi les contenants, choisissant d'abord ceux qui contiendraient la poudre et vérifiant l'étanchéité des couvercles ou des bouchons, puis les appariant avec ceux dans lesquels on allumerait les feux. Il refusa mon aide quand je la lui proposais.
« Je finirai par fabriquer le réceptacle idéal pour ma poudre. Il devra pouvoir s'embraser aisément, mais pas trop vite, afin que celui qui met le feu ait le temps de s'éloigner, présenter une étanchéité suffisante pour empêcher l'humidité de détériorer le produit et pouvoir se remplir proprement sans qu'aucune particule reste collée sur la surface extérieure. Et puis je trouverai une meilleure façon de déclencher l'explosion. »
Complètement absorbé dans son travail, il redevenait le maître occupé à examiner sa nouvelle invention sous toutes les coutures sans vouloir la confier à son apprenti. Je m'écartai légèrement et m'assis sur le lit de devoir à côté de Burick, qui ne disait mot, apparemment perdu dans ses réflexions. Je demeurai en proie à un terrible sentiment d'urgence, l'envie pressante que tout s'achève, mais je n'arrivais pas à déterminer si cela provenait d'un ordre gravé en moi par Tintaglia ou de l'horreur que je ressentais en évoquant le fou. Mes pensées revenaient sans cesse à lui. Je m'efforçais de ne pas songer au martyre qu'il subissait, s'il était encore en état d'éprouver quoi que ce fût. Le contact avec le dragon m'avait rendu mon art, semblait-il, mais quand je cherchais le lien, fin comme un fil de soie qui m'unissait au fou, je ne pus le trouver, et l'effroi me saisit. « Je fais ce que tu désirais, » lui dis-je tout bas. « J'essaierai de libérer le dragon, je te le promets. » Imbre, tout au tri et au remplissage de ses récipients, ne parut pas m'entendre, au contraire de Burick. Le déclin de sa vue avait-il aiguisé ses autres sens, ainsi que le prétend la sagesse populaire ? Il posa la main sur mon épaule, et si Tram ne m'avait jamais dispensé son enseignement, peut-être n'aurais-je rien remarqué. Mais le maître de Vif avait raison. Je sentis une onde de calme affluer en moi. Burick ne se reliait pas à moi par son intelligence, mais par son essence, son état de créature vivante. Cela n'avait pas la force d'un lien de vif entre un homme et un animal, mais la liaison existait néanmoins.
« Il y a longtemps que tu agis ainsi, » fit-il à mi-voix, « que tu accomplis la volonté des autres, que tu te charges de besognes dont nul autre ne veut. »
Il ne portait pas de jugement. Il exposait un fait. Toi aussi ?
Il se tut un moment, puis répondit. Oui, c'est vrai. Comme un chien qui a besoin d'un maître, m'a-t-on dit un jour, je crois.
Cette phrase cinglante que je lui avais jetée à la figure autrefois nous fit sourire avec tristesse. Peut-être cette description s'applique-t-elle à moi aussi ? Reconnus-je. Sans bouger, en silence, nous savourâmes ce moment de répit au cœur de la tempête qui faisait rage autour de nous. Dehors, j'entendais les bruits étouffés des hommes au travail. Leur voix nous parvenait, lointaine dans le froid. Les outils cognaient avec des tintements éteints, et les blocs de glace sonnaient sourdement contre le fond de bois des traîneaux. Plus près de nous, Imbre marmonnait des propos inintelligibles en mesurant avec sa raclette des doses précises de poudre. Je tendis mon vif en quête du dragon et le trouvai, mais indistinctement. Il économisait ses forces afin de demeurer vivant en attendant qu'on le secoure. La main de Burick n'avait pas quitté mon épaule. Je me demandais soudain si, tout comme moi, il ne se servait pas de la magie des bêtes pour s'assurer de l'état du dragon. « Qu'as-tu décidé pour l'Est ?» J'avais formulé la question avant même de savoir que j'allais la poser. D'un ton presque dégagé, il déclara «
Je compte ramener mon fils à la maison et tenter d'en faire un homme droit. »
« Qui ne se sert pas du vif, veux-tu dire ?» Son grognement pouvait passer pour un acquiescement ou signifier qu'il désirait abandonner ce sujet. J'en étais incapable. « Burick, pendant toutes les années où tu as travaillé aux écuries, à exercer ton don pour guérir, apaiser, dresser les bêtes, as-tu employé le vif ? Avais-tu un lien avec Renarde ?» Il ne répondit pas tout de suite, et quand il le fit, ce fut par une question.
« Au fond, tu me demandes si j'ai exigé de toi ce que je ne m'imposais pas à moi-même, c'est ça ?»«
Oui. » Il soupira.
« Fitz, j'ai été ivrogne. Je n'ai jamais souhaité ce sort, ni à toi, ni à mes fils. J'ai cédé à d'autres penchants en sachant pertinemment qu'ils ne me rapporteraient rien de bon. Je ne suis qu'un homme. Mais je n'accepte pas pour autant de fermer les yeux sur les inclinations pernicieuses de mes enfants, encore moins de les encourager. Les tolérerais-tu, toi ? Etriken m'a révélé que tu avais un fils adoptif, et je me suis réjoui de savoir que tu n'étais pas resté complètement seul. Mais, en l'élevant, n'as-tu rien appris sur toi-même ? N'as-tu pas découvert que les défauts qui te répugnent chez toi deviennent encore plus détestables quand ils se manifestent chez ton fils ?
Il avait parfaitement résumé mon sentiment. Néanmoins, je revins à la charge. « T'es-tu servi du vif quand tu avais la charge des écuries de Castelcerf ?» Il réfléchit un instant, puis déclara laconiquement
« J'ai choisi de m'en abstenir. »
Je crus qu'il n'en dirait pas plus, mais il s'éclaircit la gorge peu après et reprit
« Néanmoins, Œil de Nuit avait raison. Je pouvais refuser de répondre, mais pas d'entendre. Je sais le nom que me donnaient les chiens. Tu l'as même prononcé devant moi, cœur de la meute. Je savais comment ils m'appelaient, et je percevais leur respect pour moi. Je ne pouvais leur dissimuler que j'avais conscience des clameurs de joie qu'ils me lançaient, tandis qu'ils donnaient de la voix pendant la chasse. Je partageais ce bonheur, et ils le savaient. Il y a longtemps, tu m'as dit que tu n'avais pas choisi Œil de Nuit, qu'il t'avait choisi, lui, et c'était lié à toi, sans te laisser guère d'option en la matière. Il en a été de même entre Renard et moi. C'était un chiot chétif, l'avorton d'une portée par ailleurs vigoureuse, mais il y avait chez elle un je ne sais quoi, une pugnacité, une volonté de surmonter tous les obstacles. Quand ses frères l'écartaient de la tétine, elle ne se plaignait pas à sa mère, mais à moi. Que devais-je faire ? Feindre de ne pas l'entendre m'implorer de lui donner la part qui lui revenait, la possibilité de survivre ? J'ai donc veillé à ce qu'elle ait droit à sa ration de lait. Mais le temps qu'elle grandisse assez pour se défendre seule, elle s'était attachée à moi, et j'en avais fait autant de mon côté, peu à peu.
À un certain niveau de conscience, je le savais, et j'ignorais pourquoi je tenais tant à ce qu'il le reconnût. Ainsi, tu m'as bien interdit ce que tu t'autorisais.
Sans doute, oui.
Te rends-tu compte que tu m'as rendu profondément malheureux ? Il ne s'y a pas.
Aussi malheureux que je l'étais quand tu me désobéissais. Mais tu ne comprends sûrement pas de quoi je parle. Assurément, tu n'as jamais rien interdit à ton heure de ce dont tu te rendais toi-même coupable, et il écoute certainement toujours tes sages conseils.
Il était très fort. Son ironie n'apparaissait que si je la cherchais. Réduit au silence, je me tus un moment. Mais il me restait une question à lui poser. « Pourquoi, Burick ? Pourquoi méprisais-tu le vif et le méprises-tu encore ? Tram, quelqu'un que j'admire grandement n'y voit aucun mal ni aucun danger. Comment ta propre magie pouvait-elle te répugner ? Il repoussa en arrière les mèches qui tombaient sur son visage, puis se frotta les yeux.
« Ah, Fitz, c'est une longue histoire, » dit-il avec réticence. « Quand elle a découvert la souillure chez moi, ma grand-mère a été horrifiée. Son père la portait aussi et, placé devant le choix de sauver son épouse et ses enfants en bas âge des mains de trafiquants d'esclaves ou son compagnon de vif d'une écurie en flammes, il avait privilégié son animal de lien. Sa famille et lui étaient tombés aux mains des marchands de chair humaine, et le peu qu'elle avait survécu, mon arrière-grand-mère avait connu une existence misérable. Elle était très belle, paraît-il, un des pires malheurs qui puisse arriver à une femme asservie. Ses maîtres abusaient d'elle, et ses maîtresses la maltraitaient par jalousie. Ma grand-mère et ses deux sœurs en avaient été témoins, et elles avaient grandi dans la servitude, violentées et brimées, tout cela parce que celui qui aurait dû se montrer fidèle d'abord à son épouse et à ses enfants leur avait préféré un cheval.
Un seul homme, Burick. Un seul homme qui a pris une mauvaise décision. Et qui sait ce qui a guidé son choix? Peut-être a-t-il cru, en sauvant le cheval, pouvoir s'en servir pour mettre sa famille en sécurité ou pour repousser les trafiquants. Nous l'ignorons. Mais cela ne fait toujours qu'un seul cas. Cela me paraît bien peu pour juger le vif dans sa totalité. Il eut un petit soupir agacé.
Sa décision a condamné 3 générations d'hommes et de femmes, Fitz. Ça ne paraissait pas bien peu à ceux qui supportaient ce fardeau. Et ma grand-mère craignait, en me laissant suivre cette voie, que je ne commette la même erreur, que je ne trouve un animal, Milly, et le place au-dessus de tout. Or, après sa mort, sa peur s'est vue fondée pendant quelque temps. J'ai agi précisément comme elle le redoutait, et toi aussi. Ne t'es-tu jamais retourné sur ta vie en te demandant « En quoi change-t-elle si j'en soustrais le vif ?» Réfléchis-y. Si Fouineau ne s'était pas interposé entre nous, n'aurions-nous pas été plus proches? Si ton lien avec Martel n'avait pas existé, te serais-tu montré plus appliqué lors de tes leçons d'art? Si Œil de Nuit n'avait pas fait partie de ton existence, Royal aurait-il eu un prétexte pour ordonner ta mort?
Je restai un instant sans savoir quoi dire, puis je répliquai. Mais si on n'avait pas regardé le vif comme une magie honteuse, rien de tout cela ne serait arrivé. Si tu l'avais désigné sous le nom de lignage et m'avais expliqué pourquoi je ne devais pas me lier, si on avait tenu le vif dans la même estime que l'art, tout se serait bien passé. Son visage devint cramoisi, et l'espace d'un instant, je retrouvai le caractère emporté de Burick. Puis, avec une patience que seul le temps avait pu lui inculquer, il répondit à mi-voix.
Fitz, mon éducation sur ce sujet date de l'époque où ma grand-mère a découvert cette souillure en moi. Le vif est une magie infâme, et elle avilit qui la pratique. Tu me parles de gens qui l'emploient sans se cacher et n'y voient aucun déshonneur. Eh bien moi, j'ai entendu parler de pays où les hommes épousent leurs sœurs et ont des enfants d'elles, où les femmes se promènent, la poitrine nue, où l'on ne juge pas indigne de répudier sa compagne au seul prétexte que sa jeunesse s'est fanée. Donnerais-tu ce genre de conduite en exemple à tes enfants, ou bien les éduquerais-tu ainsi qu'on t'a éduqué toi-même?
Je sursautai quand Ambre intervint soudain.
Chaque société obéit à des règles implicites, et pour la plupart, nous ne les remettons jamais en cause. Néanmoins, Burick, vous avez certainement dû vous interroger un jour ou l'autre sur les préceptes qu'on vous a inculqués. N'avez-vous jamais résolu de décider par vous-même si cette magie vous était utile ou non?
Burick tourna vers lui ses yeux troubles. Que voyait-il? Une silhouette? Une ombre? Ou bien son vif captait-il l'essence du vieillard?
Je la savais utile, sire Imbre, mais j'étais adulte et j'en connaissais le prix. Votre prince, là, dehors, quel prix devrait-il payer pour sa belle magie si utile si l'on venait à découvrir qu'il possède le vif? Vous niez qu'il l'a pour le protéger de la vindicte et des préjugés populaires. Pouvez-vous me reprocher d'avoir tenté d'en protéger le fils de chevalerie?
Le vieux conseiller baissa les yeux sur son travail sans répondre. Il avait fini. 6 récipients. De la gourde à la boîte à sel, plein de sa poudre explosive, reposait dans des casseroles ou de petites marmites.
« Je suis prêt !» dit-il.
Il leva le visage vers moi et m'adressa un curieux sourire.
« Allons libérer le dragon !»
Je n'aurais su déchiffrer son regard vert. Avait-il vraiment l'intention de dégager Glacefeu de sa prison de glace, ou voulait-il le tuer? Peut-être n'en savait-il rien lui-même. Mais, comme contaminé par sa résolution, je sentis soudain mes muscles se bander, et le besoin me gagner d'en finir rapidement.
« Y a-t-il du danger ?»
demanda Burik.
« Pas plus que la nuit dernière, »
répondit Imbre d'un ton sec. Le père de l'Est tendit la main pour effleurer les récipients du bout des doigts.
« Pas 6 fois plus. Comment vous y prendrez-vous? Un seul homme pour déclencher toutes les charges, ou bien 6 ?»
L'autre réfléchit un moment.
« 6, dont chacun allumera le feu dans une casserole, puis Fitz seul pour déposer un récipient de poudre dans chacune. »
J'acquiesçais de la tête à la sagesse de cette solution. 6 hommes, décidant à part soi quand placer la charge et prendre les jambes à son cou, avaient des chances de se bousculer, de trébucher et de provoquer une tragédie. D'accord. Je pris 3 pots de poudre, Imbre les 3 autres, et Burik se chargea du sac de combustible et d'une bouilloire remplie de braises récoltées dans le feu que les gardes avaient couvert le matin. J'entamai l'ascension de la pente sous un ciel qui me paraissait éclatant. Il faisait chaud pour le climat de la région, et le soleil se réfléchissait sur la glace étincelante. Comme nous montions côte à côte, Burik me demanda
« Es-tu sûr qu'Orti ne craint plus rien? Je ne me rends pas compte du risque qu'elle a couru, mais vous en paraissiez tous épouvantés. »
J'avalai ma salive, puis avouai ma faute. Sur mes instances, elle a pénétré dans le rêve de Glacefeu pour le réveiller. Son talent d'artiseuse consiste à manipuler les songes. Je n'ai pas pensé une seconde au danger qu'elle courait, au défi terrible que représentait de jouer non plus avec l'esprit d'un humain, mais avec celui d'un dragon.
« Et elle l'a quand même relevé. »
Il perçait de la fierté dans sa question. « Oui, sur ma requête. Les remords me rongent de l'avoir exposé à un tel péril. » Il se tut le temps de quelques pas.
« Ainsi, elle te connaît, et assez pour te faire confiance. » Depuis combien de temps?
Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas facile à expliquer, Burik. Je me sentis rougir, mais poursuivis avec un effort. Autrefois, il m'arrivait de vous observer. Pas souvent. Seulement quand j'avais trop de mal. Ce n'est pas bien, je sais. Après un long silence, il répondit.
Tu devais vivre un véritable supplice. Nous avons été heureux la plupart du temps.
Je respirais profondément. Oui, en effet. Mais je ne me rendais pas compte que je faisais participer Orti. Elle me servait, comment dire, de point d'attache, sans doute. Peu à peu, elle a pris conscience de ma présence et elle m'a identifié à un homme loup dans ses rêves. Je m'interrompis, trop bouleversé pour continuer. D'un ton où l'amusement ne pointait qu'imperceptiblement, il fit
« Ah, voilà qui jette un jour nouveau sur certains cauchemars très singuliers de son enfance. »
J'ignorais que je l'affectais ainsi. Et puis, à mon tour, j'ai fini par l'apercevoir dans mes rêves. Nous nous sommes mis à parler dans les mondes qu'elle créait. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'elle employait l'art, mais d'une façon inconnue de moi jusque-là. Toutefois, je n'ai jamais... Elle n'est pas au courant que... Ma gorge se noua, et je ne pus aller plus loin.
Je sais. Si tu lui avais dit que je ne suis pas son père, je l'aurais appris.
J'acquiesçais de la tête sans un mot, surpris de sa manière de voir la situation. Pour moi, il s'agissait de révéler à Orti qui était son père. Pour lui, de lui confesser qui n'était pas son père. Il toussota et changea de sujet.
Il faudra lui enseigner à maîtriser son art, sans quoi elle peut y laisser son esprit. Je connais ce danger parce que Chevalerie m'en a dit.
Elle doit recevoir une formation, oui. Elle court désormais un grand risque si elle n'apprend pas à dominer sa magie. Mais pour cela,
Nous devons intervenir. Il lui faut un professeur.
Toi ?
Demanda-t-il aussitôt. Un professeur, répétai-je, et nous nous tûmes. J'écoutais le crissement des pelles et des pics qui s'enfonçaient dans la neige, et la glace et le bruissement incessant du vent sur le glacier, étrange musique entrecoupée par les encouragements mutuels des terrassiers. Mais quand nous arrivâmes à la fosse, toute activité cessa presque aussitôt. Au bord de l'excavation, Ambre s'adressa à tous pour expliquer les propriétés de sa poudre et l'usage qu'il comptait en faire. Curieusement détaché, je scrutais les visages levés, remarquai l'inquiétude de Tram et la perplexité de Niel. Certains exprimèrent bientôt un enthousiasme d'adolescent à la perspective d'essayer une technique nouvelle. Ambre descendit la rampe avec ses récipients dans les bras et je le suivis avec les miens. Il inspecta les trous que Devoir et Longue Mèche avaient ordonnés. Il en fit approfondir un, en refusa un autre et demanda qu'on le recreuse près de l'entrée du tunnel effondré. Tous devaient s'aligner le long des fractures principales ouvertes par le dragon. Là, selon lui, la glace affaiblie céderait plus facilement à l'effet de la poudre. Il désigna 6 hommes pour préparer les feux dans les vases. Puis Burik passa lentement de l'un à l'autre pour distribuer amadou, combustible et braise tirée de sa bouilloire. Après quoi, Imbre le fit ressortir de la fosse. Lui-même se déplaça de foyer en foyer afin de s'assurer que chacun était bien assis dans son trou et présenterait une couche incandescente d'une épaisseur suffisante pour y enfoncer les récipients explosifs. À plusieurs reprises, tandis que les servants allumaient le petit bois, il souligna qu'il s'agissait de doses relativement faibles de poudre, dont la puissance ne saurait causer de mal à glace-feu, mais agrandirait les fissures de la glace afin qu'il pût s'en libérer plus vite. Les hommes se redressèrent les uns après les autres quand ils jugèrent leur feu bien parti. Chaque fois, Imbre s'approcha, ajouta du bois à la flambée, puis envoya le responsable rejoindre ses camarades hors de l'excavation. Les récipients de poudre restèrent posés à 2 empans des trous fumants. Lorsqu'il ne demeura plus que le vieillard et moi au fond de la fosse, il se pencha pour me chuchoter.
« Je vais remonter parmi les autres. À mon signal, fais vite le tour des 6 trous en déposant dans chacun le pot de poudre correspondant, puis sors rapidement. Il faudra un peu de temps au feu pour échauffer la poudre, mais je pense préférable que tu ne t'attardes pas. »
« Et moi donc ?» Il hésita comme s'il voulait ajouter un mot, puis secoua la tête. Encore une fois, je me demandais si sa volonté s'opposait à ses actes. Je le suivis des yeux, tandis qu'il gravissait la rampe et se mêlait à ceux qui, au bord de la fouille, me regardaient. Je fus alors frappé de constater que toute division avait disparu dans notre groupe. Membres du Edgurd, de la garde et du clan de Vif se côtoyaient sans réserve. Burig se tenait près d'Imbre, l'Est de Tram, et le Marguet de Vif de Civil, couché à plat ventre sur la glace, m'observait avec curiosité. Je respirai profondément, puis gagnai le premier trou et pris le pot de poudre. Je le laissai tomber dans la casserole rougeoyante, et des étincelles jaillirent. Je fis de même avec le deuxième, le suivant chut de guingois, et je dus l'enfoncer davantage dans les braises. J'entendis les spectateurs murmurer pendant cette opération. Le quatrième se glissa sans difficulté dans son logement, mais le cinquième s'était collé à la glace, et j'eus l'impression qu'une éternité s'écoulait avant qu'il ne s'en détache. Sous mes efforts, le couvercle se défit et un peu de poudre s'échappa. Je refermai le récipient et le nettoyai du mieux que je pus. Comme je le déposais dans le trou, le feu s'élança avidement à l'assaut de ses flancs où restaient accrochés des grains, qui brûlèrent avec des étincelles et des flammes blanches. Je me répétais qu'il avait fallu du temps avant que la gourde d'Imbre n'explose dans ma cheminée. Néanmoins, le dernier pot glissé dans son trou, aussi aisément que le premier, je cédai à mon instinct et pris les jambes à mon cou. Je gravis la rampe au pas de course pour rejoindre les autres au bord de la fosse. À cet instant, le cinquième récipient de poudre explosa dans une gerbe de feu rugissante, accompagnée d'étincelles et d'exhalaisons sulfureuses. Des exclamations de saisissement et de peur montèrent de l'assistance, mais comme j'arrivais au sommet de la pente, les flammes blanches décrurent puis s'éteignirent. Le récipient qui contenait le foyer se rompit avec un craquement sonore, et nous entendîmes le sifflement du feu noyé par l'eau de fonte de la glace. Imbre secouait la tête quand je parvins près de lui.
« Un de perdu, » fit-il abruptement. tonnerre d'elle, que n'ai-je eu le temps d'essayer davantage ma poudre et d'inventer le contenant idoine. Toutefois, note que les flammes ont suivi les traces de poudre pour parvenir à la masse principale. Peut-être pourrions-nous utiliser cette caractéristique à notre profit. Je croyais que la substance devait se trouver enfermée pour...
La première déflagration se produisit dans le deuxième trou, me sembla-t-il. Peut-être le feu avait-il échauffé le récipient plus rapidement que ses voisins. Il était difficile de se prononcer car, tandis que des blocs et des éclats de glace jaillissaient du fond de la fosse et retombaient en pluie autour de nous, un autre pot, voire deux, explosèrent simultanément. La violence du bruit, bien supérieure à celui de la détonation précédente, m'assourdit. Jamais je n'avais rien entendu de pareil. J'eus l'impression que l'air lui-même me giflait à toute volée, me laissant les oreilles tintantes. De fines aiguilles de glace se piquèrent dans mon visage. Je battis des paupières, me croyant atteint de cécité, mais en réalité, je n'y voyais rien à cause d'une brume impénétrable de neige extraordinairement fine qui flottait autour de nous. Partout retentissaient des cris de colère et d'effroi, tandis que les hommes s'écartaient de la fosse. Terrorisé, le marguet de civil passa en trombe près de moi, poursuivi par son maître éperdu. Je sentis une vague d'indignation monter du dragon. « Nous essayons de vous libérer, » lui artisai-je, mais je ne captai nulle réponse. Burik m'agrippa l'épaule en jetant des regards de tous côtés, les traits crispés par l'affolement. Je le pris par le bras pour l'éloigner de l'excavation, mais il se dégagea brusquement en s'exclamant
« Lest, où est mon fils ?»
à l'instant où une nouvelle explosion soulevait le sol. Je me retrouvai à genoux et Burik à quatre pattes. L'air était chargé de glace pulvérisée et l'ancien maître des écuries s'étouffa, cracha et cria
« Lest ! Lest ! Où es-tu, mon garçon ?»«
Ici, papa !»
répondit l'enfant en surgissant brusquement du brouillard pour se jeter entre les bras de son père, les yeux agrandis par la peur.
« Eda, merci, tu n'as rien. Reste près de moi. Maudits soient mes yeux, Fitz. Que se passe-t-il ? Je m'attendais à des flammes, des étincelles et de la fumée. Non, à ça. Qu'a-t-il donc fait, cet insensé ?»
Songe à une bûche qui éclate et se fend dans le feu, Burik. Ce n'est rien de plus. La poudre en explosant a fracturé la glace autour d'elle. Je n'imaginais pas une telle violence, mais il n'y a plus rien à craindre. Garde ton calme. Mais alors même que je prononçais ces paroles rassurantes à mon profit, autant qu'au sien, la terre s'ébranla de nouveau sous nos pieds, et je perçus un déchaînement de fureur mentale.
« Vous me le paierez, misérable traître, petite larve perfide, je verserai un seau de votre sang pour chacune des écailles que vous aurez décelées de sa chair. » J'arrive. Vous avez éveillé la colère de Tintaglia. Vous mourrez tous.
Nous tentons de l'aider, non de le tuer.
J'avais employé la voix, le vif et l'art tout à la fois. Elle ne répondit pas. Puis, comme je battais des paupières pour débarrasser mes cils des cristaux de glace qui s'y accrochaient et tâchais d'apercevoir le fond de la fosse, je distinguais un mouvement. On y voyait mal dans la brume tourbillonnante qui retombait, mais au cœur de cette blancheur, je discernais une masse noire qui montait, arrondie, puis émergeait du brouillard comme une baleine de la mer. J'entendis la glace se rompre dans un fracas de crissements et de craquements, puis une odeur me parvint, une odeur de chair croupie et malsaine, une puanteur reptilienne. Je me redressai tant bien que mal et me rapprochai prudemment de l'excavation. Un travail pénible, lent et gigantesque s'y déroulait. Des zones de l'échine émaciée du dragon apparaissaient à l'air libre, sa queue, dont il s'efforçait de dégager le fouet, battait et se courbait comme doué d'une vie propre. Une patte postérieure immense s'était libérée, et les griffes, qui avaient cru à l'excès pendant la longue captivité, creusaient de profondes entailles dans la glace afin de trouver un appui et arracher à sa prison le reste de la titanesque créature. Soudain, une aile se déplia, et des morceaux de glace volèrent en tous sens quand elle s'éleva comme la voile en lambeaux d'un navire abandonné. Elle s'agita éperdument, et je crus vomir quand une odeur pestilentielle d'animal malade me parvint dans l'air brassé. Glacefeu luttait pour s'échapper, la tête et le cou toujours prisonniers de la glace. Alors que la brume de cristaux se redéposait, les humains revinrent par petits groupes près de la fosse et contemplèrent le spectacle. Certains, l'air ahuri, d'autres, horrifiés. L'expression d'Imbre était à peindre, mais j'ignorais s'il restait effaré devant la puissance destructrice de sa poudre ou la démesure de la créature qui l'avait en partie libérée. Le premier, Burik, recouvra l'usage de la parole.
« La pauvre bête !»
Il tendit les mains, les doigts écartés, et parut pousser doucement l'air devant lui. Combien de fois je l'avais vu faire ce geste lorsqu'il s'approchait d'un cheval agité. Émanait-il de ses paumes un calme apaisant? Il haussa soudain le ton.
« Il a besoin de notre aide. Prenez des pelles et des piques, mais je veux que vous opériez tous avec délicatesse. Dans sa situation, vous risquez de le blesser en voulant le secourir. Ne faites rien qui le pousse à se débattre. »
Une main serrée sur l'épaule de l'Est, l'autre légèrement en avant, il s'avança d'un pas mal assuré vers le bord de la fosse.
« du calme !»
lança-t-il au dragon d'une voix empreinte d'un vif lénifiant.
« Nous arrivons. Cesse de t'agiter. Tu ne vas réussir qu'à te faire du mal, ou à nous faire du mal à nous. Calme-toi, nous allons t'aider. »
À nouveau, je perçus l'onde rassurante qui accompagnait ces paroles. Le dragon aussi y parut sensible, à moins qu'il ne ralentît, puis cessa ses efforts par simple épuisement.
« Gare à la fosse, mon ami !» intervint Tram. « La rampe se trouve par là. L'Est, conduis ton père au fond, nous aurons besoin de lui. »
Le maître de vif saignait du front, là où un éclat de glace lui avait entaillé la peau. Il passa devant nous, insoucieux de sa blessure, une pelle à la main, et je m'aperçus alors seulement que les explosions avaient fait des victimes parmi nous. Un homme du Edgur gisait dans la neige, inconscient, un filet de sang coulant de son nez et de ses oreilles. Un de ses compagnons agenouillé près de lui, l'air confondu. Civil, qui avait rattrapé son marguet, le tenait serré gauchement contre lui et s'efforçait de calmer l'animal affolé. Je cherchais de voir des yeux et le vis descendre en hâte dans l'excavation, une baramine en guise de bâton de marche. Le fond de la cavité, rompu, brisé, m'évoquait la débâcle d'une banquise sur une mer démontée.
« Mon prince, soyez prudent, la bête peut être dangereuse !»
cria Imbre, avant de suivre rapidement l'adolescent. Tous, doués du vif ou non, convergèrent vers la créature prisonnière et entreprirent de déblayer les blocs de glace libérés par les déflagrations. Opération périlleuse, car le dragon persistait à se soulever et à essayer de se cabrer pour se dégager. Une puanteur épouvantable, de reptiles assoupis et affamés imprégnait l'air. Pourtant, Burik n'en parut pas affecté quand il s'approcha du monstre et posa doucement les mains sur ses écailles noires.
« Du calme. Laisse-nous ôter les morceaux de glace décellés avant de poursuivre tes efforts. Tu n'arrangeras rien si tu te casses une aile. »
Il se figea soudain. Ce fut le vif, et non l'art qui me transmit le sentiment de suffocation et d'affolement du dragon. Je sentis que son attention était tournée ailleurs et supposai qu'il communiquait avec Tintaglia. J'espérais qu'il l'avertirait de notre volonté de l'aider.
« Il faut dégager sa tête. Il n'a pas assez d'air pour se libérer seul, »
me dit Burik alors que j'arrivais près de lui. « Je sais, je l'ai perçu aussi. » J'ajoutais en tâchant de dissimuler un petit sourire suffisant. « J'ai le vif, tu sais. » Je ne m'étais pas rendu compte que l'Est pouvait m'entendre. Peut-être parce que mes oreilles tintaient encore des explosions. J'avais parlé plus fort que je ne le croyais. Il me regarda, les yeux écarquillés, avec une expression avide et passionnée.
« Vous êtes donc bel et bien fit ce chevalerie, le bâtard au vif, et mon père vous a vraiment élevé dans les écuries ?»
Il s'exprimait d'une voix curieusement chantante, comme s'il venait de se découvrir un lien de parenté avec une célébrité ou une figure de légende. Et sans doute, était-ce le cas, mais je ne jugeais pas cet enthousiasme très sain. Burik et moi répondîmes quasiment à l'unisson.
« Nous en parlerons plus tard. »
L'Est resta un instant bouche bée, puis éclata d'un rire étranglé.
« Déblayez la glace au niveau de son épaule gauche !»
lança Tram en passant près de nous. Et l'on s'empressa de lui obéir, y compris l'Est. Le maître de vif fit halte devant nous, un pic au poing, et d'un geste de la main, il arrêta l'enfant. Puis il nous dit, dans un murmure,
Vous ne pourrez pas toujours repousser tout au lendemain, ni l'un ni l'autre. Un jour viendra où vous devrez fournir des explications à ce garçon. » Toutefois, il n'y avait nul reproche dans sa voix, et j'eus même l'impression qu'un léger sourire flottait sur ses lèvres. Il s'inclina devant Burick et poursuivit. « Pardonnez-moi si je vous fais affront, je sais votre vue défaillante, mais vos épaules et votre dos paraissent encore solides. Avec votre fils pour vous guider, vous pourriez nous rendre grand service en tirant les traîneaux chargés de glace hors du chantier. Acceptez-vous de nous aider, Burick ?» Je crus qu'il allait refuser. Il préférait se tenir à l'écart de Tram et de ce qu'il personnifiait. Mais l'autre avait présenté sa demande avec courtoisie, et de fait, Burick pouvait se rendre utile. Je me doutais bien qu'il devait ronger son frein, au chevet d'un animal prisonnier, incapable de rien faire tandis que d'autres travaillaient à le libérer. En outre, l'Est se trouverait ainsi près de lui, sous son autorité paternelle. À son expression, je compris qu'il se soumettait à une concession difficile, et il déclara non à Tram, mais à son fils.
« Mène-moi au traîneau, mon garçon, et mettons-nous au travail. »
Je restai seul, tandis que père et fils s'en allaient exécuter l'ordre de Tram. Ils s'attelèrent aux cordes de halage, aux côtés de Civil et de Niel, puis se mirent à tirer, penchés en avant. Malgré sa mauvaise jambe, Burick fournissait manifestement le plus gros de l'énergie. Sans à-coups, le traîneau chargé gravit la rampe et sortit de l'excavation. L'accouplage de l'enfant et de son père avait été opéré avec adresse, et Burick devait se réjouir de cette réunion autant qu'elle contrariait l'Est. Le maître du vif cherchait-il à combler le fossé qui les séparait, tout en s'efforçant d'amener Burick à une position moins rigide envers sa magie? Je réfléchissais encore aux combinaisons possibles quand la dernière explosion se produisit. Je pense, aujourd'hui, que le feu avait continué de couver dans la casserole que j'avais oubliée en quittant le boyau de glace, au-dessus de la tête du dragon. Avait-il fini par embraser les pots sur lesquels il reposait pour gagner le flacon d'huile et le récipient de poudre, ou bien, lors des premières déflagrations, l'huile s'était-elle répandue sur le cuir près de la poudre et des braises? J'ai passé beaucoup de temps à examiner ces questions sous tous les angles, sans jamais parvenir à une réponse certaine. La charge, plus considérable que les suivantes, était destinée à tuer. Sa détonation projeta en l'air le plafond du tunnel et propulsa les blocs de glace qui obstruaient l'entrée dans la fosse où nous travaillions. Le souffle jeta hommes et outils pêle-mêle au sol, et je me retrouvai précipité à l'autre bout de l'excavation. Une pluie d'éclats de glace plus acérée que des flèches retomba et transperça certains d'entre nous. Je sentis l'impact de leur chute, mais tout baignait dans une blancheur infinie, et je me crus frappé de cécité autant que de surdité. Puis la brume de cristaux commençant de se redéposer dévoila un spectacle de fin du monde, d'où tout bruit était absent. Je vis Tram passer près de moi en titubant, les mains sur les oreilles. Je vis l'aigle écrasé en un tas inerte sous d'énormes blocs de glace. Je vis des hommes qui criaient, mais je ne les entendis pas. Et je me demandais si je recouvrerais un jour mes capacités auditives. Je levai les yeux et aperçus Umbre et Devoir qui regardaient la scène d'un air horrifié. Ils ne se trouvaient pas dans la fosse au moment de la catastrophe, et je songeais aussitôt que les responsables des traîneaux avaient dû échapper eux aussi à ces effets les plus destructeurs. Mais alors que j'essayais de me redresser et constatais que je ne souffrais probablement d'aucune fracture, un second ébranlement se produisit. Le sol se déroba sous mes pieds, la glace se souleva, de nouvelles fractures béèrent puis s'ouvrirent tout à fait. Une masse noire apparut et s'éleva au milieu des morceaux de glace qui retombaient en cascade.
Libre.
Jamais je n'avais perçu de pensée aussi cohérente de la part de Glacefeu, et elle s'apparentait plus à un sentiment de triomphe qu'à un mot. Son immense tête noire monta au bout d'un coup serpentin, et il se servit de ses ailes à demi pliées comme point d'appui pour s'extraire de sa prison. La vue de ce corps si longtemps resté captif suscita ma pitié, malgré l'horreur que m'inspirait le sort de mes malheureux camarades. Les os saillaient sous sa peau écailleuse qui pendait lamentablement de sa carcasse comme des haillons mal rapetassés. Quand il déploya ses ailes, je les découvris pleines de trous et de déchirures, comme une cape de tissu fin arrachée aux ronces. Il se hissa en chancelant, s'interrompant à plusieurs reprises pour pousser un rugissement et s'efforcer de dégager une patte, puis l'extrémité d'une aile. Il n'accordait aucune attention aux hommes commotionnés qui gisaient autour de lui. Mais cela ne me rassurait nullement, car, comme une violente chaleur, une gigantesque faim s'était mise à irradier de lui. Et je me sentais soudain, à un niveau instinctif, devenu proie devant un prédateur démesuré. Lui parler ne l'affecterait pas plus que l'affolement d'un lapin ne retenait un loup. Ni œil de nuit, ni moi, n'avions jamais tenté de communiquer avec nos repas avant de les tuer. Il ne fallait pas espérer mieux de cette créature.
« Fou, qu'as-tu lâché sur notre monde ? »
fis-je dans un gémissement. Avec un nouvel effort, le dragon s'extirpa davantage de la glace fracturée, et ses proportions apparurent encore plus imposantes. Tout en assurant ses prises sur les blocs branlants de son tombeau éventré, il tira sa queue de sa prison. Si longue qu'on l'eût crue sans fin, elle finit par sortir complètement et reposer en rond autour de lui sur le sol défoncé, semblable à la mèche recourbée d'un fouet. Glacefeu rejeta tout à coup la tête en arrière et poussa un hurlement sauvage qui commença comme un rugissement grave, puis monta si haut dans les aigus que je ne le perçus plus. C'était le premier son que j'entendais depuis l'explosion, et alors que le barrissement du monstre faisait trembler jusqu'à mes poumons, j'eus l'impression d'acquérir un sens nouveau. Je vis alors ses naseaux s'évaser, puis sa tête triangulaire descendit vers le cadavre de l'aigle. L'outrilien était mort, mais le sort qui l'attendait ne m'en épouvanta pas moins. Glacefeu poussa la dépouille du museau, la délogea de l'amoncellement de glace qui l'avait broyée, la saisit délicatement entre ses babines, l'enleva dans les airs et la secoua pour en faire tomber la neige qui y demeurait accrochée, tout comme œil de nuit débarrassant un poisson des feuilles mortes collées à ses écailles. À la façon d'une mouette, il jeta au-dessus de lui le morceau de viande qui avait été un homme et ouvrit la gueule si grand que le cadavre se trouvait déjà dans son gosier quand il déglutit. On ne vit plus de l'aigle ensuite qu'une boule qui glissait dans la longue gorge. En moi, le loup ne portait nul jugement. On pouvait parfaitement considérer un homme mort comme de la viande, et le dragon n'avait rien fait d'autre que de dévorer une charogne. Lorsque la faim me tenaillait, je n'avais pas agi différemment, et je n'avais été que trop heureux de dérober une portion de la victime d'un ours pendant que le chasseur dormait, le ventre plein. Mais l'aigle avait été un être humain et un chef de clan. Il avait partagé mes repas et croisé mon regard au-dessus du feu de camp. Cette créature que nous avions éveillée ne voyait en lui que de la nourriture, et ma conception du monde et de sa hiérarchie s'en trouvait bouleversée. En cet instant, je pris vaguement conscience de l'échelle gigantesque sur laquelle nos actes avaient réagencé notre univers. Nous n'avions pas affaire à un dragon de pierre pétri de lames de héros qui émergeait du sommeil pour nous sauver, mais à une créature démesurée, de chair et d'os, animée d'appétit, de besoins, et douée de la volonté de les satisfaire pour assurer sa survie personnelle, sans se préoccuper de ce que cela pouvait nous coûter à nous, humains. D'un œil hébété, je cherchais un moyen de m'enfuir. Je n'étais pas exactement en face de Glacefeu, mais je faisais partie des proies potentielles les plus proches. Je restais saisi au spectacle des hommes couverts de sang qui s'alignaient, chancelant, au bord de l'excavation et contemplaient d'un air stupéfait le monstre qu'ils avaient libéré. Parmi eux, je distinguais Burik, la main crispée sur l'épaule de l'Est. Niel, avec son regard avide de ménestrel, Civil et son marguet qui, tous les poils hérissés, avaient doublé de volume. Je ne vis nulle part Imbre ni Devoir, et je craignais le pire. J'aperçus un pied botté non loin de moi et formais le vœu fervent qu'il fût encore attaché à un corps dissimulé sous la neige. À qui appartenait-il? Soudain, l'Est pointa le doigt vers moi et se mit à parler d'un ton apparemment pressant à son père. Alors ce fou de Burik ouvrit la bouche et au mouvement de ses lèvres, je sus qu'il criait.
« Fitz! Fitz, sors de là! Sauve-toi !»
Et le dragon tourna la tête vers lui. Je vis ses yeux, au tourbillon noir et argent, se poser sur l'homme qui m'avait élevé. Je vis sa tête monter au bout de son long cou, et je hurlais.
« Non !»
Ma propre voix me parvint à peine plus audible qu'un murmure. Burik parut savoir qu'il avait attiré l'attention du monstre, car il se retourna et d'une poussée violente écarta l'est qui alla s'étaler le nez dans la neige. Puis, sans armes, il fit face au dragon. À cet instant, une nouvelle convulsion agita le glacier et me jeta par terre, avec l'impression que le sol cédait sous mes pieds. Glacefeu aussi se démenait pour conserver son équilibre. Il déploya ses ailes dépenaillées et s'efforça d'enfoncer ses griffes dans les parois de la fosse. Les hommes s'égaillèrent tandis qu'ils se hissaient tant bien que mal et parvenaient à s'extraire de l'excavation. La glace qui soutenait son corps emprisonné s'effondra, laissant une crevasse béante derrière lui. Alors que je me retenais au bord du trou que nous avions déblayé au pic et à la pelle, je compris ce qui s'était produit. Les efforts du dragon pour se libérer, auxquels s'ajoutaient peut-être les effets de la poudre d'imbre, avaient affaibli le plafond de l'immense salle royale de la femme pâle, et il s'écroulait sur elle. Un espoir féroce naquit en moi. Peut-être périrait-elle écrasée sous la masse. Je regardais les blocs qui tombaient, en entraînant d'énormes quantités de glace dans leur affaissement, et je me demandais si par chance une entrée n'allait pas ainsi s'ouvrir sur le palais, si je ne pourrais pas m'y glisser, survivre à la chute au milieu de l'avalanche, et réussir à délivrer le fou tant qu'il était encore vivant. Mais selon toute vraisemblance, l'éboulement de la voûte de glace comblerait totalement la salle. La mort serait rapide pour mon ami. Pourtant, je hurlais.
« Non! 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 Fou! Bien-aimé! Non !»
Comme en réponse à mon cri, un mouvement se fit dans la glace au fond de la fosse éventrée. J'écarquillai les yeux, incapable de croire à une force suffisante pour résister à la violence de l'avalanche. Puis tout déplacement cessa. Agrippé au rebord de l'excavation, je poussai une exclamation d'effroi quand Devoir me saisit brusquement le poignet.
« Montez »
brailla-t-il, et je m'en rendis compte soudain qu'il m'avait appelé déjà plusieurs fois pour attirer mon attention, alors que je ne quittais pas des yeux la glace en train de s'effondrer et le dragon qui s'échinait à sortir de la fosse. Et y avait d'ailleurs quasiment réussi. Tout le monde semblait avoir pris la fuite, et je ne vis que deux corps inertes que je ne puis identifier. Je me suspendis à la main de Devoir qui soutint mon poids avec un grognement d'effort, planté des deux talons dans la glace pour me permettre de me hisser hors de l'excavation.
« Où est Imbre ? Il faut nous enfuir !»
lui criai-je. Avec un large geste du bras, comme pour indiquer que nos compagnons avaient déjà dévalé la pente pour regagner le camp, il ouvrit la bouche. Puis l'ouvrit plus grand encore, tandis que ses yeux s'exorbitaient de terreur. Je me retournai. Au fond de la fosse éventrée, brassant la neige et la glace comme un crapaud qui émerge de la vase où il a hiberné, apparaissait le dragon de la femme pâle. L'éveil à la vie ne lui avait donné aucune grâce. Il restait une créature grossièrement sculptée, composée de nombreuses existences discordantes, d'un gris sombre, terne comme de l'argile crue. Mon vif capta la faim dévorante qui le tenaillait. Il n'était qu'appétit, et je le savais prêt à engloutir tout ce qui passerait à sa portée. Puis, je sentis l'aura d'art qui le précédait, et je défaillis sous l'impact. Il ne s'agissait pas seulement du besoin de se nourrir d'une bête affamée. Une personnalité s'était imposée en maîtresse de la créature, qui se tordait en rugissant à nos pieds, et je compris que, son dragon de pierre ayant besoin d'un dernier coup de pouce pour s'éveiller, la femme pâle avait donné en pâture celui à qui cette âme appartenait. Et qu'elle avait réussi.
« Place à pain cru. Je viens écraser, tuer et dévorer. J'ai faim de la chair des paysans. Aujourd'hui, j'aurai ma vengeance !»
Son regard s'arrêta sur Glacefeu.
« Dragon des six duchés, tu vas mourir !»
Le monstre de pierre s'élança, et ses larges mâchoires se refermèrent sur la base de la queue de Glacefeu. Puis, s'appuyant sur ses pattes courtes et épaisses, il commença de reculer dans l'abîme obscur en entraînant le dragon noir à sa suite.